vous écoutez Europe 1. Tout de suite le journal, Isabelle Millet.
Bonsoir à tous, voici les titres de votre journal. Et une prise d'otage est en cours à la prison de Condé-sur-Sarthe dans l'Orne. Deux surveillants retenus, c'est dans cette prison qu'un détenu radicalisé avait déjà attaqué deux surveillants début mars. On vous donne les dernières infos dans un instant avec Jean-Gabriel Bourgeois. On ne peut plus faire face à la détresse des personnels des hôpitaux. Déçus par leur rencontre avec un représentant de la ministre de la Santé, ils promettent d'amplifier le mouvement. Emmanuel Macron fait son autocritique évoquant la crise des Gilets jaunes. Il reconnaît avoir peut-être parfois construit des réponses trop loin des concitoyens. C'était une erreur, dit-il. Un nouveau super loto du patrimoine, le 14 juillet. Il va permettre de sauver 121 sites au total en France parce qu'il n'y a pas que Notre-Dame et parce qu'il n'y a pas que les filles qui jouent au foot. On part tout de suite retrouver Cyril de la Morinerie à Andorre où les Bleus jouent leur quatrième match qualificatif pour l'Euro. Trois buts en première mi-temps. Pour l'instant, tout roule, Cyril. Finalement, ils sont plutôt bien faits au gazon synthétique, on dirait.
Oui, et à Andorre, effectivement, 58 minutes de jeu, 3-0, but marqué par Mbappé à la 11e minute. Le deuxième but de Ben Yedder à la 29e et à la 45e, juste avant la mi-temps. Un superbe ciseau du gauche de Florian Thauvin. Ben Yedder et Thauvin qui marquent d'ailleurs leur premier but en bleu, 3-0.
Merci beaucoup. Cyril de la Morinerie, que l'on retrouvera bien évidemment plus longuement dans le courant de cette journée. Il fait froid ce soir en Andorre. Pour demain, côté météo, ça va s'améliorer chez nous sur le sud et l'est. En revanche, sur le nord-ouest, le ciel va rester instable, ponctué d'averses localement orageuses avec de la grêle. Prévision complète d'Elena Morna à la fin de ce journal. Et puis comme chaque soir à 22h20, vous aurez rendez-vous avec l'interview écho d'Emmanuel Duteil. Emmanuel reçoit ce soir Hugues Ouvrard. Il est le directeur de Xbox France et il sera en duplex de Los Angeles alors que se tient en ce moment aux États-Unis le plus grand salon des jeux vidéo.
Europe 1.
Et je vous le disais, une prise d'otage est donc en cours en ce moment dans la prison ultra sécurisée de Condé-sur-Sarthe dans l'Orne, cette même prison où un détenu radicalisé avait attaqué, on s'en souvient, deux surveillants début mars. Bonsoir Jean-Gabriel Bourgeois.
Bonsoir Isabelle.
Quelles sont les informations dont on dispose?
Eh bien, ce qu'on sait ce soir, c'est que vers 19h, au moment du repas, un détenu a pris en otage deux gardiens de cette prison sous la menace d'une arme artisanale. Selon le syndicat EFO pénitentiaire que j'ai pu joindre, l'homme était chargé de distribuer le repas à ses co-détenus quand il a profité de ce moment pour prendre en otage un surveillant titulaire et une surveillante stagiaire. Selon plusieurs sources, le preneur d'otage est un habitué des faits. Condamné pour viol, il est derrière les barreaux depuis avril 2000 et n'est jamais ressorti de prison. Il a aujourd'hui 35 ans et a déjà au moins 5 autres prises d'otage en détention à son actif. Les équipes régionales d'intervention et de sécurité de la pénitentiaire ainsi que le procureur sont sur place depuis moins d'une heure aux côtés des gardiens de prison de Condé-sur-Sarthe, solidaires de leurs collègues retenus en otage et choqués 3 mois tout juste après une autre prise d'otage dans la même prison par un détenu radicalisé. Une cellule de crise a ce soir été activée au ministère de la Justice.
Merci beaucoup Jean-Gabriel Bourgeois. On va évidemment continuer à suivre ça de très près tout au long de la soirée. Le malaise à l'hôpital, il a commencé aux urgences il y a 3 mois, mais aujourd'hui c'est tout le personnel qui a voulu faire entendre sa voix, tous les services hospitaliers pour dire la souffrance, la surcharge de travail, les violences, les salaires qui ne suivent pas. Une journée de mobilisation nationale alors que le Sénat votait justement la loi santé ce soir, texte qui instaure la suppression du numerus clausus, qui prévoit le développement des hôpitaux de proximité ou encore la régularisation des médecins étrangers. Les représentants syndicaux ont été reçus à Paris par le directeur adjoint du cabinet de la ministre et à leur sortie, ils n'ont pas caché leur déception à l'image de l'urgentiste Christophe Prudhomme de la CGT Santé.
Nous avons été reçus de nouveau par le directeur adjoint de cabinet qui n'avait pas grand-chose de plus à nous dire que jeudi dernier. On sent bien que le mouvement les inquiète, mais par contre, aucune réponse sur les effectifs. Vous savez que on a chiffré les besoins rien que pour les services d'urgence à 10 000 emplois et pour l'hôpital, un plan de rattrapage de 100 000 emplois.
Du coup, qu'est-ce qui va se passer là très concrètement de votre côté?
De notre côté, vous savez, nous sommes à une centaine de services d'urgence en grève. Sur certains endroits comme à Bourges, c'est l'ensemble de l'hôpital qui est en grève. Nous allons étendre le mouvement pour que le gouvernement comprenne qu'il y avait moins une crise grave. Certains de mes collègues ont parlé de la nécessité d'un plan Marshall pour l'hôpital public. Donc voilà, un plan Marshall, c'est quand même une expression forte.
Voilà, Christophe Prudhomme de la CGT Santé, joint pour Europe 1 par Mélanie Gomez. Vous l'avez entendu, ce mouvement de colère et de grève dans les hôpitaux va donc s'intensifier. À noter que le projet de loi santé qui a été adopté ce soir par le Sénat prévoit également de nouvelles mesures pour lutter contre les déserts médicaux. La crise des Gilets jaunes et le mea culpa aujourd'hui d'Emmanuel Macron. Le président s'exprimait devant l'Organisation internationale du travail à Genève. Il a mis en garde contre les dérives d'un capitalisme fou qui profite de plus en plus à quelques-uns. Et le chef de l'État s'est livré à une autocritique critique alors qu'il évoquait l'agitation sociale des derniers mois en France.
Je crois qu'il faut avec beaucoup d'humilité savoir écouter, savoir constater ce qu'on a mal fait, ne pas arrêter de faire ce qu'on doit faire, savoir changer de méthode, mais entendre, je crois, l'intuition, le message profond. Nos concitoyens veulent plus de proximité et plus d'humanité. Nous avons peut-être parfois construit des bonnes réponses trop loin de nos concitoyens. Et je pense que c'était une erreur fondamentale. Je l'ai dit avec force, je crois que la crise que nous vivons peut conduire à la guerre et à la désagrégation des démocraties. Je pense que tous ceux qui croient sagement assis, confortablement repus que ce sont des craintes qu'on agite, se trompent. Moi, je ne veux pas commettre avec vous la même erreur.
Emmanuel Macron à Genève cet après-midi au micro européen d'Olivier Samin. C'est demain qu'Édouard Philippe prononcera son discours de politique générale qui marquera l'acte 2 du quinquennat. Et après le bon score des écologistes aux européennes, le Premier ministre est notamment très attendu au tournant sur les questions d'environnement. Alors que le gouvernement doit présenter le mois prochain sa réforme des retraites, une donnée avec laquelle il faudra composer, les prévisions de déficit du système de retraite sont revues nettement à la hausse à 10 milliards d'euros à l'horizon 2022. C'est-à-dire deux fois plus qu'estimé l'an dernier.
Isabelle Millet sur Europe 1.
Merci d'écouter Europe 1. Il est 22h06 et la traque se poursuit à Lorient pour tenter de retrouver le chauffard qui a tué un enfant et en a grièvement blessé un autre. Un appel à témoins a été lancé avec les photos du suspect et de sa passagère. Appel à témoins que vous pourrez trouver sur notre site internet europe1.fr. La mort du conducteur d'une trottinette hier soir à Paris. Un jeune homme de 25 ans percuté par un camion alors qu'il avait grillé une priorité. Un drame qui alerte une nouvelle fois sur le danger de ses engins. Le procès Balkany entre dans sa dernière ligne droite. Ça fait 4 semaines maintenant qu'il a commencé. Le réquisitoire est prévu jeudi. Patrick Balkany, qui jusque-là s'est montré toujours très affable devant les caméras comme devant le tribunal, reconnaît aujourd'hui que ce procès a aussi été pour lui et ses proches une souffrance.
Bien sûr que j'ai souffert. Vous ne croyez quand même pas qu'on reste 4 ans, 5 ans en instruction, puis un mois et demi dans une salle de tribunal sans souffrir. On souffre de ce que vous écrivez tous les jours. On souffre des réseaux sociaux. Tout ce qui est insultant. Oui, j'ai souffert de ce que ma femme s'est auto-infligée et subie depuis. Oui, oui, on souffre. Oui, je souffre. Et aujourd'hui, je suis heureux d'avoir le soutien de tous les Levalloisiens. Quand je rentre à Levallois, que tous les gens viennent me saluer, me dire on a besoin de vous. Ben oui, ça vous fait plaisir.
Patrick Balkany au micro de Chloé Triomphe du service police-justice d'Europe 1. Et dans un instant, c'est la suite de votre journal sur Europe 1. On prend des nouvelles des Bleus du foot qui jouent en Andorre ce soir et qui viennent de marquer un 4e but. A tout de suite.
Europe 1.
Soch présente.
Ça y est, je suis pas chez Soch. Il y a une super promo.
C'est pas plutôt une super promo?
Ben ouais, c'est ça, une super promo.
Jusqu'au 24 juin à 9h, profitez du forfait mobile 50 gigas de data à 9,99€ par mois pendant un an, puis 24,99€ par mois sur Orange, le réseau mobile numéro 1. Et vous, quand est-ce que vous pâchez ces choses?
Rapport ARCEP 2018, promotion valable en métropole pour toute nouvelle souscription à un forfait 24,99€ par mois. Conditions sur soch.fr.
Soch! Waouh, il est trop beau ton fauteuil vintage, il a dû te coûter un bras.
Tu rigoles, pas un clou, je l'ai chiné au salon Emmaüs. Tu trouves tout à prix mini, meubles, vêtements, vélos, mais aussi des livres et des ordi. En plus, cette année, assieds-toi, Emmaüs fête ses 70 ans. Alors, tu viens avec moi le 23 juin?
Je réserve ma journée. Quel pied?
De fauteuil.
Le salon Emmaüs, une solution économique et solidaire pour se faire plaisir sans faire souffrir la planète, ni son porte-monnaie. Salon Emmaüs, pour la solidarité internationale, dimanche 23 juin de 9h30 à 18h30, Paris Expo, Porte de Versailles.
Vous pensiez tout connaître de votre ville? Redécouvrez-la avec votre nouvelle Mini. Explorez-la de jour comme de nuit avec ses projecteurs full LED. Décelez les meilleures adresses avec Mini Connected et sa conciergerie. Gagnez du temps grâce au GPS avec infotrafic en temps réel. Mini Tro 5 portes, plus que jamais un style unique. Unique aussi avec son offre sans aucun apport, à partir de 230€ par mois. Méné. Exemple pour une Mini H3 portes 75 chevaux, valable jusqu'au 30 juin 2019. Conditions sur mini.fr.
Le journal de la nuit avec Isabelle Millet sur Europe 1.
Merci d'écouter Europe 1, il est 22h09 et tout de suite le foot. En attendant, les filles, demain face à la Norvège, deuxième match du mondial, ce sont les garçons qui sont sur le terrain ce soir. Les Bleus jouent face à Andorre, match qualificatif pour l'Euro 2020. Alors après leur défaite en Turquie, Cyril de la Morinerie, ils espéraient se faire pardonner et visiblement, eh bien c'est le cas. Hein.
Oui, on va les pardonner parce que les Français l'amènent 4-0. Alors certes, 4-0 face à la 134e nation mondiale, c'est sûr qu'il faut rester prudent. Mais ils ont mis les ingrédients dès le début de match avec beaucoup d'implication en mettant de la vitesse. Et c'est une équipe de France très sérieuse qui aurait pu penser à ses vacances, mais qui vraiment fait le boulot ce soir avec un Didier Deschamps qui n'a pas hésité à faire 7 changements pour redonner du tonus à sa formation. Et ça paye avec un but dès la 11e minute de Mbappé sur un raid presque solitaire. C'est Dembélé qui avait donné ce ballon à Mbappé qui est entré dans la surface de réparation sur le côté gauche et qui a trompé la vigilance du gardien andorran. Ben Yedder à la 29e a marqué son premier but en bleu sur une passe de Griezmann. Thauvin, lui, a marqué un très beau but à la 45e. Lui aussi, c'est un premier but en bleu pour Florian Thauvin d'un ciseau du gauche. 3-0 à la mi-temps. Et puis un quatrième but. Vous allez me dire, c'est la soirée des premières parce que là, vous avez Kurt Zouma qui effectivement a marqué son premier but en bleu. Ça fait 3 joueurs qui ont marqué pour la première fois sur le maillot tricolore. Kurt Zouma, donc 59e minute. Corner de Griezmann. Et il va reprendre à deux fois ce ballon. Une première tentative, ça ne marche pas. Mais sur la deuxième tentative, eh bien ce ballon va aller au fond des filets. 4-0 sous une température, avec une température assez froide. Hein, mais enfin, les Français mettent beaucoup d'énergie et font des efforts pour rester chaud et pour marquer, pourquoi pas, un cinquième but. Hein. Mbappé a failli marquer un cinquième but pour l'équipe de France. 68 minutes de jeu et 4-0 pour les Français à Andorre, la vieille.
Marquer des buts, ça réchauffe, tant mieux. On espère qu'ils vont continuer. Merci Cyril, on vous fera un nouveau point avec vous sur cette rencontre, si vous le voulez bien, d'ici 22h30 et puis demain à 7h-ci. Vous savez qu'on sera en plein match des filles face à la Norvège et on suivra ça évidemment en direct et en intégralité sur Europe 1. Et cette question maintenant, Donald Trump va-t-il vraiment taxer le vin français sur le sol américain? C'est en tout cas ce qu'il a laissé entendre dans une interview. Et forcément, les viticulteurs français voient la chose d'un mauvais œil. Stéphane Place est le correspondant d'Europe 1 à Bordeaux.
À l'origine de cette inquiétude, une petite phrase du président américain. La France taxe beaucoup le vin et nous taxons peu le vin français. Ce n'est pas juste. Nous allons faire quelque chose pour cela. Alors évidemment, Jean-Pierre Rousseau, qui dirige Diva, une maison bordelaise de négoce, redoute la menace de Donald Trump.
Je suis inquiet, d'autant que mon métier est d'exporter du vin dans le monde entier, et en particulier aux États-Unis. À peu près 20% de notre chiffre d'affaires export, c'est pas du tout négligeable, et surtout, tout qu'on était en train de remonter sur ce marché, on a embauché une personne à cet effet, on prévoit d'en installer une autre sur place, ça tombe particulièrement mal. Imaginons qu'on double les taxes aux États-Unis, c'est-à-dire qu'elles vont passer en gros de 10 à 15 cents à 20 à 30 cents. Sur une bouteille de petit château, ça a une importance, sur une bouteille de grand vin, c'est epsilon. Alors après, s'ils mettaient en place une taxation ad valorem, comme on dit, c'est-à-dire en fonction de la valeur du vin, là ça pourrait être très très dévastateur.
Trumpienne qui ont fait réagir le ministre de l'Agriculture, Didier Guillaume, a promis qu'il n'y aura pas d'accords commerciaux au détriment de l'agriculture européenne et de l'agriculture française. Bordeaux, Stéphane Place, Europe 1.
Le loto du patrimoine 2019. Ça y est, on connaît les 121 sites retenus, ceux qui pourront donc bénéficier d'un coup de pouce financier, des châteaux, des églises, d'anciennes fabriques. Car si l'incendie de Notre-Dame de Paris a ému le monde entier, de nombreux monuments restent aujourd'hui en danger. Comme le rappelle Stéphane Bern, le patron de cette mission patrimoine, joint pour Europe 1 par Victor Dolande.
Je sais que pour Paris, on trouve toujours de l'argent et j'en ai assez qu'on oppose toujours Paris, la province, que les villages se sentent délaissés. C'est vrai que moi, je galère pour essayer de trouver 20 ou 30 millions pour sauver les églises quand d'un coup de baguette magique on trouve 1 milliard pratiquement pour Notre-Dame de Paris. Mais je pense qu'il y a plein d'autres Notre-Dame de Paris à sauver partout en France. Il y a ce que j'appelle les petites Notre-Dame, des églises qui ont 1000 ans d'histoire, qui n'ont pas démérité. Elles sont pas moins intéressantes sous prétexte qu'elles sont dans des villages de 100 habitants ou 200 habitants, mais qui eux, on le sait, n'auront jamais les moyens par les contributions des administrés de trouver l'argent nécessaire pour la sauvegarde de leur patrimoine.
Stéphane Bern, joint pour Europe 1 par Victor Dolande. Et on jette un œil tout de suite sur la météo avec vous, Elena Morna. Les giboulées de juin, c'est un nouveau concept que l'on découvrira demain.
Et vous allez voir, Isabelle, que c'est très sympa les giboulées de juin. C'est surtout les régions du nord-ouest demain après-midi qui seront concernées. Quelle chance! Alors avant la séquence giboulée, on aura un ciel nuageux de la Bretagne au Poitou-Charentes jusqu'aux Landes, ainsi que du côté des frontières du nord-est, avec des averses sous les nuages bien gris. Ailleurs, ce sera un peu moins nuageux, mais toujours une averse possible. Ce serait dommage de s'en passer. Plus clair et sec du Pays Basque aux Alpes-Maritimes. Et puis l'après-midi, le ciel restera bien nuageux sur le nord-ouest jusqu'au Bordelais, le centre, la région parisienne et les Hauts-de-France. Et c'est là qu'on aura quelques averses orageuses. nuageuse accompagnée de grêle avec des bourrasques de vent. Et plus on ira vers le sud-est, plus il fera beau quand même. Les températures en légère hausse mais affligeantes toujours pour la saison avec 15 degrés seulement au maximum pour Cherbourg et Murat, c'est dans le Cantal. 16 à Brest et La Rochelle, 17 à Caen et Angers, 18 à Lille et Bordeaux, 19 à Paris ou encore à Bourges, 21 à Strasbourg et Toulouse, 22 à Lyon et Montpellier et tout de même 24 à 26 degrés sous le soleil méditerranéen. L'amélioration, elle se confirme tout de même sur l'est et le sud jeudi, instable sur le nord-ouest et puis un bel écart thermique entre l'ouest au frais et l'est au chaud. Vendredi, quelques nuages, quelques orages un peu partout, mais le week-end s'annonce beaucoup plus sympathique.
Ça, c'est une bonne nouvelle. La météo signée Elena Mornin.
Europe 1.
Et dans un instant, vous saurez tout sur la bourse avec Didier Hamot de boursier.com. Juste avant, l'invité écho d'Emmanuel Duteil qui reçoit ce soir Hugues Ouvrard, le directeur de Xbox France. A tout de suite sur Europe 1.